L'ombre portée de Bourdelle. Émission mensuelle à l'occasion du 150e anniversaire de Bourdelle et pour le saluer bien sûr en son pays. Nous allons faire aujourd'hui un petit tour d'horizon de la sculpture actuelle et du travail matière en général. Et donc, nous avons invité pour l'occasion à la fois Anne-Marie Weber.
Bonjour.
Sculpteur qui se déplace entre Montauban et Saint-Antonin-Nobleval. Sylvain Croisy.
Bonjour.
Sculpteur forgeron qui se trouve près des caves de Fronton. Jean-Pierre Chollet, sculpteur céramiste, qui se trouve à Briand-de-Vers, près de Bruniquel. Serge Martin Robin, que les auditeurs connaissent bien, à la fois sculpteur, peintre, auteur, compositeur, interprète, et j'arrête là, et qui se trouve à Montauban, bien entendu. Et enfin, moi-même, Christian-André Acquier, directeur fondateur de l'espace Bourdelle Sculpture. Alors, nous allons faire un petit tour d'horizon. Chacun va présenter un peu sa discipline, ses motivations, ses orientations, voire sa formation, qu'il parle de son travail. Anne-Marie.
Je travaille le bois, pas par accident, par goût. Pourquoi le bois ? Parce que c'est un matériau qui est vivant, qui est sensuel et qui est de tous les temps. Et puis parce que j'ai rencontré l'espace Bourdelle, qui a été le lieu de la stimulation, de la création. Et donc je persévère dans cette voie. Même emprunté tardivement. Quelqu'un a même dit qu'en sculpture, le bois humanise les dieux et le bronze déifie les hommes.
Oh, belle définition. Voilà. Sylvain Croisy, forgeron sculpteur.
Oui, bon, donc rebonjour, sculpteur. La sculpture, pour moi, c'est quelque chose de, je dirais, très ancien. J'ai commencé à sculpter le métal vers l'âge de 11 ans avec un oncle dans le Doubs et voilà, j'ai jamais quitté la sculpture. J'ai changé de matériaux puisque le métal est assez exigeant et demande des ateliers conséquents et je suis passé par d'autres matériaux, le bois, enfin tous les matériaux de la sculpture, la pierre, même le plastique et je suis revenu il y a 8 ans quand je me suis installé à Fronton à mes amours premiers de la sculpture, c'est-à-dire un matériau qui est rigide, difficile à travailler, puis qu'on peut transformer avec le feu dans le fluide, dans le doux, dans le plaisir. Voilà, à peu près.
Parfait. Jean-Pierre Chollet, sculpteur céramiste.
Alors, bon, d'abord, je voudrais remercier Christian parce que la céramique, d'une façon générale, est le parent pauvre des arts plastiques, complètement mis de côté, on n'en parle pas, etc. Et bon, je sais que c'est pas le cas des amis qui sont ici, et bon, bah, je suis assez content de faire partie de cette petite conférence, parce que je vais parler de mon matériau, qui est un matériau tout aussi noble que les autres, bien que ça soit la vie, l'argile, la terre sur laquelle on marche, mais dont on peut faire des merveilles par la transformation par le feu. Voilà. Donc je suis content de pouvoir parler de ce matériau si extraordinaire.
Eh bien, le feu, l'air, l'eau, tout cela, on est dans les éléments. Serge Martin Robin.
Moi, je travaille surtout la pierre et le bois en taille directe, bien que je fasse aussi, bien sûr, de la terre, du plâtre, etc. Moi, je suis arrivé à la sculpture un petit peu par hasard, puisque j'étais d'abord peintre, et j'étais à l'époque, ça remonte à loin, vu mon grand âge, À l'époque, je travaillais dans la mouvance Cobra, donc quelque chose de très expressionniste. Et quand on peut tout faire en peinture, on finit par se taper la tête contre les murs. Donc un jour, j'ai dit, j'arrête, je pose les pinceaux et je tape sur les cailloux. On va voir ce que ça donne. Alors, en tapant sur les cailloux, je me suis mis à bien dormir. Donc c'était très bien. Et j'ai continué comme ça.
Bon, eh bien moi, mon parcours, je suis venu, non pas paradoxalement, mais peut-être de façon un peu surprenante à la sculpture par la danse. J'ai été chorégraphe, une trentaine d'années de création de danse, m'a amené tout naturellement à aborder donc une autre dimension, hein, une sorte d'écriture dans l'espace, mais celle-ci par le truchement à la fois du bois, de tous les matériaux susceptibles, et actuellement je suis dans les arts du feu, donc je rejoins Jean-Pierre puisque je travaille particulièrement le verre et le bronze. Voilà, et petit panorama donc de chacun d'entre nous. Peut-être maintenant on pourrait poser un peu un regard, hein, une petite table ronde, puisque regard sur l'actualité de la sculpture, hein, à différencier, me semble-t-il, là je suis un peu provocateur, de ce qu'on appelle de l'art contemporain. On est passé des beaux-arts, comme s'il y avait des arts laids. On est passé bien aux arts dits plastiques. La plastiquerie, c'est pas trop mon truc. On verra les collègues ce qu'ils en pensent. Pour arriver actuellement à une espèce de melting pot qu'on appelle les arts dits visuels. Alors, je ne sais pas tout ceci, ce que ça recouvre, et peut-être chacun pourra s'exprimer sur ce genre de choses. Anne-Marie ?
Ce qu'on appelle sculpture à l'heure actuelle, c'est un peu tout. Hein, et ça se situe un peu partout, à l'intérieur, à l'extérieur, en pleine nature. Mmh. On fait des installations, mais on a surtout l'impression, là, maintenant, qu'on fait surtout de la provocation. Et que la sculpture est aux mains des marchands, ce qui fait que les sculpteurs que je regarderai plus volontiers parce qu'ils travaillent vraiment le matériau, parce que ce qu'ils proposent a plus d'importance que le verbiage qu'on peut mettre autour. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le concept, l'intention, qui reste premier. Et on a peu de choses à se mettre sous l'œil. Enfin, voilà l'impression que j'ai, mais peut-être suis-je encore trop béotienne.
Nous verrons, Jean-Pierre.
Alors, moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Anne-Marie en lisant un petit texte qui est tout à fait d'actualité, que j'ai écrit pour une exposition qui a lieu en ce moment à la Maison de la Céramique Contemporaine de Giroussens, et concernant justement le rapport entre cette matière qu'on aime tant et l'art contemporain qui l'aime si peu. Alors voilà, je lis ce texte, hein. Encore une fois, un céramiste a fait des siennes. Le thème de cette exposition, les textes écrits par les céramistes qui en font partie dans ce catalogue, et bien sûr leurs œuvres, exaltent la beauté et la matérialité voluptueuse de la terre. Leur discours, souvent dense, lyrique, mais volontiers bref, s'est libéré dans l'action, le dialogue, toujours fécond avec l'argile, dans l'obsédant combat amoureux avec la matière, qui se laisse révéler et du coup nous révèle. Nous nous plaçons ainsi et délibérément en marge de ce monde de l'art contemporain, de ses concepts, de ses surenchères et de ses mirages. Ce monde auquel des organisateurs d'expositions ou de biennales, relayés par des médias complaisants, tentent d'accrocher la céramique, de l'adapter aux lois du marché de l'art en la libérant du poids du matériau et de l'artisanat dans lesquels, dit-on dans les couloirs de l'art officiel, des céramistes, encore englués dans leurs pratiques sclérosées, se vautreraient avec délices. En effet, pour certains artistes plasticiens, ce matériau ne serait qu'un médium pour accoucher de leurs fantasmes. Alors que pour nous, céramistes, c'est une matière dont la générosité, la richesse plastique nous incite à l'humilité, au respect et au dialogue.
Voilà une belle formulation. Et je dois dire, en vous écoutant tous les deux, que j'en reviens à quelque chose. Nous sommes des praticiens. Ce terme de praticien, que l'on d'ailleurs partage avec les médecins, souvent, met bien en évidence la tactilité de notre approche. C'est-à-dire cet rapport à la matière où, justement, le respect qu'on lui doit, elle nous le renvoie. Et peut-être Sylvain ou Serge pourraient intervenir.
Bon, moi je voulais dire justement que, si vous voulez, j'arrive au bout d'une chaîne, mais vraiment d'une chaîne, je fais partie d'un maillon, comme Bourdelle était un maillon de cette chaîne. Moi, ce qui m'a fait faire de la sculpture, c'est des références évidentes à des gens qui se sont coltés à la matière, qui l'ont magnifié. Ça démarre de la Vénus de Lespug, en passant par les sculpteurs de Moissac, en passant par les esclaves de Michel-Ange, en passant par Rodin, Le Bernin, bien sûr Bourdelle. Mais là, par exemple, pour moi, ce qui m'a fait chanter un petit peu, c'était Mayol à l'époque, ça remonte à loin, hein. Mayol avec son action enchaînée ou sa dernière sculpture, l'harmonie, ou Bourdelle pour sa Pénélope, par exemple. Puis après, plus tard, Henri Moore, etc. Donc il y a vraiment un grand mouvement qui fait qu'on est encore sculpteur. Alors que l'art contemporain d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se dilue. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'il y a le chaînon.
Tout à fait. Et c'est vrai que cette part à la fois de patrimoine que nous a légué l'humanité depuis la nuit des temps, tu faisais référence à la Vénus de Lespug, on a le devoir véritablement d'en tenir compte. Comme d'une écriture, il ne s'agit pas de reproduire les choses, il s'agit de respirer l'air de ce temps, bien entendu. Mais comme disait Chitao, un sage chinois, la barbe de mes ancêtres ne pousse pas sur mes joues. Il voulait dire par là qu'il avait de la barbe, bien sûr, comme ses ancêtres, mais c'était la sienne. Et nous avons le devoir, évidemment, d'être actuels. Sylvain.
Ben, moi, j'ai un rapport à l'art qui est assez particulier. Moi, je sais pas, je peux pas m'en passer, je dirais, voilà. Je peux pas m'en passer. Et qu'il soit contemporain aujourd'hui, moderne, il y a un certain temps, classique, il y a un autre temps, je dirais qu'il y a quelque chose que je peux pas me passer. C'est l'art. C'est vraiment créer quelque chose, la création,
la vibration.
Ouais, ça c'est vraiment, enfin moi c'est, ça fait partie de ma vie, quoi. Alors maintenant, quand j'entends la marchandisation de l'art tel qu'on la propose, surtout en France, je dirais la façon dont elle est proposée en France, je trouve ça assez lamentable, parce que on ne fait plus, il n'y a plus de notion de pratique, il n'y a plus de notion de métier, il n'y a qu'une notion marchande. Et ça, c'est vraiment c'est une notion marchande en plus qui est refusée en général par l'ensemble de la population. C'est ça qui est assez étonnant. C'est quelques élites qui créent ce système-là. Et après ça, qu'est-ce qu'on voit ?
Le fameux marché de l'art.
Voilà, le fameux marché de l'art. Et qu'est-ce qu'on voit après ? Ben, plus de sculptures dans les communes, plus de lieux où vraiment les artistes se retrouvent et peuvent créer des moments pour la population importants. Heureusement qu'il y a des villes comme Montauban avec l'espace Bourdelle qui réussit quand même à créer une véritable dynamique.
C'est un héritage.
Vrai. Mais moi, quand je vais en Espagne, dans n'importe quel bled, je vois des sculptures au milieu des villes. Dans n'importe quel bled. Alors qu'en France, bah, sitôt qu'on commence à parler de sculpture ou d'art avec des élus, c'est la réponse, c'est je n'ai pas d'argent. Et on s'en fout, c'est même pas la question qui est posée, c'est j'ai pas d'argent. La question qui est posée, c'est l'art. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Comment votre commune a envie de digérer ce mouvement qui est quand même un mouvement mondial, où il y a énormément, énormément de praticiens et de très bons qu'on ne voit jamais en plus? Alors bon, je crois qu'il y a un gros souci. Moi, je connais plus la France, mais vraiment, en France, je crois qu'il y a un gros souci. Les acheteurs ont quitté parce que le système, parce que les acheteurs traditionnels des artistes ont quitté le système parce qu'ils ont acheté une sculpture 20 millions de dollars. Je m'excuse, mais bon, il y a des limites à la connerie, quoi. Voilà, c'est tout.
Oui, alors c'est assez intéressant parce que tout ce qu'on vient d'entendre, et nous sommes ici, nous saluons Bourdelle. Et je vais vous lire un petit passage de Bourdelle qui va être éclairant, parce que déjà à son époque, on est au début du XXe siècle, dans les années 14-20, voilà ce qu'il pouvait écrire. Pour savoir un peu de quelque chose, il faut tout regarder. Mais il faut tout regarder longuement, puis analyser, et puis encore interpréter. Or voici, la cause est inverse des succès hâtifs. Un homme, bien doué de facilité, de mémoire, d'adresse, à la mode ou en commerce florissant, tombe en bon entourage de Cénacle, vient vers l'art. Il écoute beaucoup, il regarde davantage, il retient un peu de tout ce qui se prépare, il hume et cherche où va le vent. Le voilà prenant un style par-ci, une attitude par-là, et les accommodant aux tendances dites neuves. Point d'exclamation. Il fricasse tout cela bien mêlé et le tour est joué. Il y a même l'art nouveau. Entre parenthèses. Ça ressemble un peu à tout, parce que ce n'est rien. Mais qui est-ce qui peut bien le voir en dehors de quelques solitaires restés encombrants du fond de leurs repères? Les mages hurlent à la gloire, la foule suit. C'est écrit au début du XXe siècle par Bourdelle. J'avoue que ça donne le ton déjà, et c'est vrai que là aussi, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette époque, tout de même, a permis d'avoir des orientations, des recherches, toute une stimulation, je dirais, de l'imaginaire, qui doit bien entendu être conforté par un mode opératoire, un savoir-faire, un amour de la matière. Nous, sculpteurs, nous parlons de cela. Alors, on pourrait peut-être maintenant, on y a fait allusion, rentrer dans des choses peut-être un peu plus concrètes, c'est-à-dire savoir un peu comment se diffuse à notre époque, ça peut intéresser les auditeurs, les œuvres. Comment, depuis d'ailleurs longtemps, il y a des commandes et des concours. Il y a, bien entendu, des salons, des expositions. Est-ce que là aussi, on peut en parler dans la pratique de chacun, ce que chacun peut apporter comme regard dans cette diffusion de l'art que nous connaissons, puisque nous sommes engagés dans ce processus. Jean-Pierre ?
Oui, bon, alors encore une fois, je suis issu malgré tout d'un art qui s'appelle la poterie, qui est un art utilitaire. Et il y a 30 ou 40 ans, les potiers rejetaient sur la marge de tous les lieux où se vendait de l'art, les galeries, les salons, etc., ont créé des lieux mouvants qui s'appelaient les marchés de potiers. C'est-à-dire que ils ont pris en compte leur travail en disant puisqu'on veut pas s'occuper de nous, on va s'en occuper nous-mêmes. Alors c'est très ambigu parce que cet art de la céramique qui couvre un vaste panel de production depuis la poterie strictement artisanale jusqu'à des gens qui sont des artistes et qui créent avec ce matériau. Il y a toute une ambiguïté autour de ce matériau et des débats. Est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art, etc. Enfin, on en est toujours là, quoi. N'empêche que
la diffusion, donc.
La diffusion, petit à petit, des galeries, encore une fois spécialisées. Il y a peu de galeries qui vendent en même temps de la peinture et de la céramique. Mais ça commence à, ça arrive, quoi. D'ailleurs, il y a eu une manifestation à Paris à l'automne dernier qui s'appelait le circuit céramique, avec deux grandes expositions, une au Musée national de la céramique de Sèvres, une au Musée des arts décoratifs, et 40 galeries associées qui, dans Paris, ont exposé de la céramique au niveau international. Voilà, la diffusion, donc, petit à petit, se normalise vers des galeries, des musées, etc.
Oui, bah, la diffusion, bah, je dirais que moi je participe à environ une dizaine, 10 à 15 expositions par an à peu près, plus ou moins importantes, et des salons d'art où les artistes là vont, bah, vont faire leur marché, on va dire. On est obligé de payer un stand assez cher pour pouvoir trouver des clients, voilà. Donc ça s'appelle bien un marché, quoi. Et bon, après bon, moi j'ai pas de galerie, j'ai une galerie personnelle dans mon atelier à Fronton, mais sinon je travaille pas avec les galeries, je travaille en direct avec, bah, je dirais que mes clients ce sont des particuliers la plupart du temps, quoi.
Si tu as une galerie personnelle, tu peux te faire un peu de pub, hein.
Oui, galerie personnelle à Fronton, zone artisanale de la Dourdaine.
Voilà.
Voilà, et qui est ouverte tous les jours puisque mon atelier est à côté et j'habite sur place. Donc comme ça, c'est plus simple. Donc, mais sinon la diffusion, bon, bah, c'est vrai qu'on est dans une période où c'est complexe, quoi, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une sculpture ou une peinture ou un objet d'art. Enfin bon, bah, voilà. Maintenant, voilà, on vit avec ce qu'on trouve comme client, je dirais, et heureusement qu'on a quelques collectionneurs quand même qui sont intéressés par notre travail et puis qui ont tendance à... C'est des collectionneurs mécènes d'une certaine façon. Moi, j'en connais un dans la région d'Albi, personnellement. Et bon, bah voilà, il lui faut du croisis chez lui, et il m'a déjà acheté une dizaine de sculptures et il veut encore m'en acheter, et c'est très bien. Ça me permet de vivre, quoi. Ça me permet de réinvestir dans les matériaux et ça me permet de continuer la création. Et c'est toujours la même histoire. Je pense pas qu'autour de la table on fasse partie des artistes très riches. Et je pense qu'on fait partie des artistes qui ont envie d'être des artistes de toute façon. Et puis qui peuvent survivre avec leur métier, quoi. Parce que bon, je considère qu'il y a aussi une notion de métier dans ce travail d'artiste, quoi. Métier dans le sens où on utilise des matériaux quand même particuliers, que ce soit la terre, le bois, la pierre, le métal, le verre pour Christian, voire le bronze pour Christian un petit peu. Et ces matériaux sont un peu notre âme. C'est avec eux qu'on arrive à aller plus loin dans notre recherche. Enfin, moi, c'est la diffusion. Je la sens dans ce sens-là. Il faut, moi, une fois que j'ai créé ma sculpture, il faut que le public la voie. Sinon, après, il n'y a plus d'intérêt. Je suis pas un rat d'atelier qui reste enfermé tout le temps, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu.
Voilà. Alors, je retiendrai deux choses. Ce que tu viens de dire, et puis Serge interviendra bien entendu sur sa pratique et puis la diffusion justement des œuvres. Mais je voudrais rappeler, on en a parlé d'ailleurs à la précédente émission avec Serge, rappeler que l'art est un métier. Je le rappelle à mes élèves, ceux qui sont devenus d'ailleurs eux-mêmes, hein, des professionnels, ce qui veut dire qu'il faut connaître véritablement tous les circuits. Hein, il ne s'agit pas de jouer les maudits. Nous sommes dans une époque, hein, il ne faut pas non plus, hein, comment dirais-je, abonder dans les choses de négatif ou de trop noir. Hein. Je crois qu'on a une chance aussi, hein, même si on désigne ce marché de l'art qui ne nous concerne pas d'ailleurs, parce que nous aussi on est sur le marché de l'art, mais c'est une autre dimension. Je crois qu'il est indispensable, quand on veut, hein, s'engager dans ce métier, de connaître, hein, les tenants et aboutissants. Savoir à l'avance que ce sera difficile, qu'il faut faire à sa place, hein. Savoir aussi qu'il y a des circuits, hein. Et savoir aussi qu'il y a des aléas, hein, nous sommes conduits, hein, forcément à avoir des moments d'enthousiasme, des moments de pas de désespoir, j'espère, mais en tout cas de découragement, et ça fait partie de notre métier.
Oui, là je suis entièrement d'accord. En plus de ça, la sculpture est plus difficile à vendre que la peinture, qui se vend plus facilement comme des petits pains, quoi. Il faut vraiment avoir la place pour mettre une sculpture. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire mon petit bonhomme de chemin, mais c'est bien quand j'en vends quelques-unes quand même, parce que le matériau coûte cher, les outils coûtent cher, et ça fait toujours plaisir de vendre des œuvres. Et quand on vend une œuvre, et ben ça conforte et ça me permet de poursuivre. Mais j'ai la chance quand même de pouvoir être très très libre. Je ne suis pas dans un circuit. Je fais les salons, je fais quelques galeries. J'ai abandonné les commandes publiques parce que c'était trop humiliant. Et voilà.
Alors voilà, je voulais aborder justement la notion de concours et de commande. Ça fait partie aussi du métier. Hein. Alors, là aussi, on peut faire un petit tour de table. C'est vrai que quand on se montre, et c'est nécessaire ce que disait Sylvain, la monstration fait partie de notre métier. Hein. Sinon, on fait ça chez soi, gentiment, on se fait plaisir. Et c'est à la fois aussi, j'ai employé un terme peut-être un peu audacieux, prétentieux. Parce qu'on prétend hein, apporter un regard qui est à la fois, comme je disais tout à l'heure, qui fait partie de la tradition, mais qui est aussi notre propre production. Et quelque part, dans nos œuvres, on se reflète soi-même. Hein. Et cela, il faut bien entendu trouver un public. Hein. Et ça suppose, bien entendu, être dans cette situation où il y a possibilité, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, de faire des concours, puisque je rebondis là sur les commandes, les concours, les choses comme ceci, qui permettent aussi de se frotter à d'autres. Et c'est pas inintéressant. Et d'ailleurs, quand on expose, quand on fait des salons, c'est toujours intéressant, me semble-t-il, parce que c'est une manière, justement, d'engager un dialogue hein, avec non seulement les confrères ou les consoeurs, mais aussi avec les matières. Hein. Et donc, c'est stimulant pour l'esprit. C'est une manière aussi d'être présent, évidemment, hein, sur le terrain hein, du métier lui-même. Hein, et ça peut amener, bien entendu, à ouvrir des perspectives, y compris, je dirais, ce n'est jamais rétréci, si vous voulez, à un moi, un ego. Hein. C'est une manière, justement, de dispenser hein, un regard, mais aussi de recevoir.
Oui, en fait... Moi qui suis, qui ne circule pas dans les circuits divers de la sculpture, mais qui regarde beaucoup, mais c'est vrai que quand on arrive à s'exprimer, et on commence par le faire pour soi-même, parce que c'est un besoin intérieur. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a besoin du regard des autres, et qu'on a besoin... Bon, de regarder les autres, ça c'était évident, ça se faisait dans un premier temps. Mais qu'on a besoin du regard des autres, ça fait partie de cette possibilité d'échange, comme disait Christian, d'échange, d'ouverture, et ça alimente notre réflexion. C'est pas seulement une question d'ego, parce qu'on est prêt aussi bien, avec moins de plaisir bien sûr, mais à accepter les regards négatifs, mais au moins, là, ça déclenche une réflexion. C'est la nécessité de se montrer.
Voilà, c'était L'ombre portée de Bourdel, émission mensuelle, la dernière de la saison, comme on dit. J'espère que la rentrée CFM hein, nous ouvrira encore ses studios hein, et son antenne. Je voulais, par l'occasion, remercier, bien sûr, hein, pour l'accueil, et surtout Rémi, qui est derrière les commandes, et qui nous a suivis attentivement pendant toutes ces émissions. Attentivement, mais aussi avec exigence, je l'en remercie. On a eu parfois des choses à refaire, c'est très bien comme ceci. On parlait d'exigence tout à l'heure pour nous-mêmes dans nos travaux. Hein, c'est un professionnel. Et je le salue en tant que tel. Bien sûr, je voudrais terminer par une petite, un petit mot sur Bourdel. Hein, j'espère qu'à la rentrée, en septembre-octobre, nous reprendrons quelques émissions. Et Bourdel, hein, dans quelques aphorismes, hein, si je les retrouve, disait ceci, hein, je crois que chacun va partager son sentiment. Je garderai toujours une âme de meneur de rêve. C'était L'ombre portée de Bourdel avec Anne-Marie Weber, Sylvain Croisy, Jean-Pierre Chollet, Serge Martin-Robin et votre serviteur Christian André Acquier.